Bienvenue sur Radio Cham pour l'émission Pourquoi voyage-t-on ?
Nous allons donc nous intéresser aujourd'hui aux raisons qui nous poussent à voyager.
Tout d'abord, nous allons accueillir Ambre, Léna et Emma qui vont nous expliquer comment le voyage transforme notre rapport au monde et à nous-mêmes.
Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Aujourd'hui, nous allons explorer le lien entre itinérance et identité et comment voyager peut nous aider à nous construire. Pour cela, nous nous intéressons à deux œuvres. Un récit de Sylvain Tesson, écrivain et aventurier qui raconte ses expériences de solitude et de découverte du monde, et à l'histoire vraie de John Cracker, parti seul à l'aventure pour se trouver lui-même, adapté au cinéma par Sean Penn dans le film Into the Wild, sorti en 2007.
Sylvain Tesson. En 2014, il est victime d'un grave accident lorsqu'il escalade une façade d'une maison. Il chute de plusieurs mètres. Il survit, mais a de nombreuses fractures, colonne vertébrale, côte et crâne. Il reste immobilisé, incapable de bouger. Cette épreuve bouleverse sa vie. Pour se remettre physiquement et mentalement, Tesson choisit la marche. En 2015, encore affaibli, il décide de traverser toute la France à pied par les chemins noirs, c'est-à-dire les sentiers les plus discrets, loin des routes et des villes. Cela devient pour lui une thérapie. Elle lui permet de réapprendre son corps, de redonner du sens à sa vie après le choc. C'est dans ce contexte qu'il écrit « Il m'aura fallu courir le monde et tomber d'un toit » pour saisir ce que je disposais là, sous mes yeux. La vie me laissait une chance, il était donc grand temps de traverser la France à pied sur mes chemins noirs. Cela montre à quel point l'accident a été un tournant dans sa construction personnelle.
Après le voyage introspectif de Sylvain Tesson, tournons-nous maintenant vers une autre quête de soi en pleine nature, celle de Christophe McCandless dans Into the Wild.
Dans le film Into the Wild, le personnage principal, Christophe McCandless, quitte tout, sa famille, ses amis, sa vie en société. Il avait besoin de partir et de tout laisser derrière lui, c'est donc ce qu'il a fait. Il se met en tête de rejoindre l'Alaska par ses propres moyens, sans l'aide de personne. Sur la route, il s'est retrouvé, ressourcé, il a suivi ses rêves. Cela lui a permis de faire des rencontres inoubliables, de grandir. Il se sentait enfin libre, chose qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. La chose la plus importante qu'il ait appris, c'est que le bonheur ne se vit pas seul, s'il est partagé, il vaut vraiment la peine d'être vécu. Ce long voyage, malgré le fait qu'il soit tragique, lui a réellement beaucoup apporté. Nous avons eu l'occasion d'interviewer Anaëlle, une étudiante qui est partie à Dubaï pendant 2 mois dans le cadre de ses études. Voici son témoignage.
À quel âge tu es partie ?
Alors je suis partie, j'avais 18 ans.
Donc pourquoi tu es partie ?
Alors, je suis partie, c'était dans le cadre de ma formation en BTS Commerce International où j'ai dû faire 2 mois à l'étranger pour valider ma première année.
Qu'est-ce que ça t'a apporté ?
Moi, je suis quelqu'un de timide de base et après ce voyage, j'ai entre guillemets ouvert ma perception de la vie et ça m'a permis d'être plus avenante vers les personnes parce que j'étais confrontée avec des gens qui parlaient pas forcément la même langue que moi.
Est-ce que si l'occasion se représentait, tu le referais ?
Personnellement, non, parce que ça a été 2 mois à l'étranger. Ça a été super long, j'ai trouvé le temps super long. Le premier mois, j'ai fait beaucoup d'activités, mais le deuxième mois, je voulais juste rentrer.
Ok, oui, ok. Tu pourrais nous dire ton meilleur souvenir ?
Alors, mon meilleur souvenir, c'est lorsque je suis partie dans le désert, faire du quad dans le désert, parce que j'en avais jamais fait. Et du coup, c'était bien.
Et donc maintenant, ta plus grosse galère ?
Ma plus grosse galère. Alors, c'était la période où il y avait une guerre politique, entre guillemets, et il y avait eu beaucoup d'incendies à Dubaï. Et il y a un jour, il y a une alarme incendie qui a retenti, mais c'était un essai. Sauf que nous, on n'était pas au courant, et les ascenseurs ne marchaient plus. Du coup, on a dû descendre 32 étages, et j'ai mal fini, quoi.
Ça fait long, quoi.
Parce qu'on a eu peur.
Est-ce que tu le recommanderais à une personne ?
Franchement, oui, parce que là, tu découvres un nouvel environnement. Surtout que là où j'étais, je ne connaissais pas, j'avais jamais mis les pieds. Je voyais beaucoup cette destination qui est Dubaï sur les réseaux sociaux. Mais y être allée, ça m'a... J'ai vu une nouvelle phase de Dubaï. D'un côté, je recommanderais pour certaines personnes. Et d'un autre côté, non, pour les personnes un peu plus sensibles.
Alors, merci Anaëlle pour ce témoignage que tu nous as apporté. Et merci de nous avoir montré cet aspect nouveau et donc pas toujours positif donc, du voyage. Donc à travers ces récits, nous avons pu voir comment le voyage devient un véritable chemin vers la connaissance de soi entre rencontres, défis et immersion dans la nature.
Merci pour votre participation.
Maintenant, nous allons accueillir Shana, Roman, Loan et Semi.
Ils vont donc nous expliquer comment l'aérien peut vraiment réduire son empreinte carbone.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir dans votre émission spéciale consacrée au voyage. Aujourd'hui, nous nous posons une question essentielle. L'aérien peut-il vraiment réduire son empreinte carbone ? Pour en parler, je reçois une experte du secteur et deux étudiantes en BTS Tourisme, futures hôtesses de l'air. Merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de l'invitation. Oui, l'aérien est souvent pointé du doigt car il représente environ 2 à 3% des émissions mondiales de CO2. Mais c'est aussi un secteur qui évolue très vite vers plus de durabilité.
Justement, beaucoup de gens pensent que l'avion sera toujours polluant. Est-ce que de vraies solutions existent ou est-ce seulement du discours marketing ? Et en tant que future hôtesse de l'air, on veut montrer que voyager responsable, ce n'est pas forcément voyager moins, mais voyager autrement.
Non, il y a des vraies avancées. La plus importante, ce sont les carburants durables d'aviation. Produits à partir d'huile recyclée ou de biomasse, ils peuvent réduire jusqu'à 80% des émissions sur l'ensemble du cycle de vie. Le problème, c'est qu'ils coûtent cher et qu'ils ne sont pas encore disponibles en grande quantité. Mais la production progresse chaque année.
Et du côté des avions eux-mêmes, est-ce que les compagnies changent quelque chose ? Parce qu'en tant que futur professionnel, on voit que beaucoup de choses évoluent en coulisses et que finalement, l'innovation ne s'arrête jamais.
Oui, clairement. La plupart renouvellent leur flotte avec des appareils comme l'Airbus A350, l'A320neo ou le Boeing 787, qui consomment environ 25% de carburant en moins. Elles optimisent aussi les routes, réduisent le poids embarqué et certaines testent déjà le roulage électrique au sol. Et à plus long terme, on parle même d'avions hydrogène ou électriques pour les liaisons courtes.
On voit donc que la technologie avance, mais vous, en tant que future hôtesse de l'air, comment voyez-vous votre rôle dans cette transition ?
Pour nous, les PNC sont aussi des acteurs du tourisme durable. On est sur le terrain, on peut sensibiliser les passagers à voyager plus léger, à respecter les consignes de tri, à limiter le gaspillage pendant le service. Ce qui me motive, c'est de me dire que chaque petit geste à bord peut faire une différence sur des milliers de vols par an. Et puis, on se rend compte que notre rôle va bien plus loin que la sécurité ou le service. On peut vraiment influencer les habitudes des passagers.
On est aussi les premières ambassadrices des destinations. On peut valoriser des hébergements responsables, des activités qui respectent les populations locales. Pour moi, le tourisme durable, c'est aussi valoriser les destinations de manière respectueuse, en montrant leur beauté mais aussi leur fragilité. J'ai envie d'être une hôtesse de l'air qui non seulement accompagne les passagers, mais qui les inspire à voyager avec plus de conscience.
Exactement. Les compagnies comptent de plus en plus sur les équipages pour soutenir leurs démarches environnementales. C'est un vrai changement de culture.
Un dernier mot pour conclure, l'aérien peut-il être compatible avec le tourisme durable ?
Oui, si on accepte de le transformer et d'améliorer chaque étape. Le carburant, les appareils, les opérations et aussi les comportements.
Nous, on veut faire partie de cette évolution. Finalement, on ne transporte pas seulement des passagers.
On transporte aussi des idées et de nouvelles façons de voyager. L'objectif n'est pas de renoncer au voyage, c'est d'apprendre à voyager mieux.
Merci à toutes les trois pour cet éclairage. L'aérien change et les professionnels de demain y joueront un rôle essentiel. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau sujet.
Merci pour votre participation.
On va accueillir les garçons.
Ils vont donc nous expliquer comment les artistes voyageurs, peintres, musiciens, écrivains et itinérants ont nourri la création.
Et bonjour à tous et bienvenue sur notre chronique AVD, Art, Voyage et Découverte, présentée par votre Jeff National, aka moi-même. Au programme d'aujourd'hui, des professionnels qui nous parleront d'art, puis de découverte, le tout dans le monde du voyage. Et premièrement, accueillons Romulus qui va nous présenter...
Van Gogh. Donc Vincent Van Gogh est né en 1853 et a commencé la peinture en Hollande à l'âge de 25 ans. Il a voyagé en Belgique et en France afin de peaufiner ses recherches et s'inspirer de nouveaux voyages. Il débute avec un style très sombre sur des paysages, des travailleurs et des scènes rurales. Il se dirige ensuite vers la Belgique en 78, dans laquelle il se rend dans les régions minières et dans laquelle il réalise ses premiers tableaux avec un style sérieux et de dessins très sombres, austères, dramatiques. Après ce premier voyage, il décide de devenir réellement un artiste. Il revient ensuite en Hollande avec de nouvelles inspirations et peint le Mangeur de pommes de terre, un de ses tableaux les plus connus. Il décide en 1886 de partir à Paris et se transforme complètement en découvrant la capitale française. Il peint avec des couleurs beaucoup plus vives et commence aussi les autoportraits. Par la suite, il découvre Arles et tombe littéralement amoureux de la ville. Il réalise de nombreux tableaux avec des couleurs chaudes. C'est grâce à ce voyage dans le sud de la France qu'il réalise ses deux œuvres les plus connues, les Tournesols et la Nuit étoilée. Il a donc complètement changé de style grâce à ses voyages, ce qui l'a mené à sa réussite.
Merci Roméo. Continuons dans cet univers passionnant qu'est l'art, mais orientons-nous vers le quatrième art, avec Estherion, qui va quant à lui nous présenter...
Gaël Faye. Gaël Faye, forcé de quitter le Burundi en 1995 alors qu'il est âgé de seulement 13 ans car il y a des conflits entre les populations des Hutus et des Tutsis au Rwanda, il est donc venu en France. Il écrit des textes et s'essaie au rap dès l'adolescence qu'il passe aux Yvelines. L'expérience de la guerre civile et du génocide, plus le fait d'être venu de force en France, a nourri ses besoins d'écrire et de s'exprimer. Il s'est fait connaître par son premier roman, Petit Pays, sorti le 24 août 2016, avec lequel il remportera de nombreux prix, dont le Goncourt des lycéens adapté au cinéma et qu'il avait également fait en musique. Suite à cela, il continue la musique où il parle de lui, de son histoire, de comment il a grandi et du pays d'où il vient. Aujourd'hui, il est retourné vivre à Kigali, la capitale du Rwanda, avec sa femme et ses enfants. Il continue actuellement la musique et vous pouvez le retrouver le 5 et 6 juin 2026 sur la scène du festival Idée Hill à Avignon.
Vraiment très touchant, merci à vous, on lui passe le bonjour. Mais l'art n'est pas le seul à avoir fait voyager, comme la recherche par exemple. Et c'est pour cela que Théophile, lui, nous présentera...
Marco Polo. Marco Polo, célèbre marchand, explorateur, diplomate, ethnologue et écrivain vénitien, on le connaît tous en tant qu'explorateur, mais il est un véritable artiste du récit. À travers son ouvrage Le Livre des Merveilles, il a exercé sa passion en explorant l'Asie et lui a donné une autre forme d'œuvre littéraire. Poussé à voyager dès le plus jeune âge grâce à son père puis à son oncle, qui étaient des marchands, il a été témoin de cultures complètement différentes, des découvertes hors du commun pour l'époque. Marco Polo, à travers ses récits, a contribué à ouvrir les yeux de l'Occident sur des mondes inconnus. Son histoire importante a marqué l'histoire du voyage et de la découverte. Il a été pendant 17 ans émissaire impérial dans tout son empire en Chine. Après 24 ans de voyage, il revient à Venise, chargé de messages à tous les rois de l'Occident chrétien.
C'est très intéressant, ça me rappelle un peu tous ces aventuriers et grands zoologistes. Et ça tombe bien, parce que Marius pourra nous présenter...
Charles Darwin. Darwin est scientifique anglais, il a voyagé en Amérique du Sud pour pouvoir découvrir de nouvelles espèces. Darwin est un naturaliste, il a révolutionné le monde de la biologie avec son ouvrage « L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle » paru en 1859. Durant son voyage, il a écrit un journal dans lequel il évoque sa théorie de l'évolution. Sur l'île des Galapagos, Darwin a noté que les oiseaux varient en fonction de leur bec. Cela lui a donné l'idée que ces oiseaux s'étaient diversifiés pour mieux s'adapter aux conditions locales. Cette observation est la théorie de l'évolution. Grâce à son voyage itinérant, il a découvert l'une des plus grandes théories existantes.
Eh bien, merci à vous, Monsieur Marius, et merci à vous tous, professionnels que vous êtes. Je suis sûr que votre passion envers ces artistes et chercheurs sera clairement ressentie pour nos auditeurs. Et rendez-vous très bientôt sur Radio Cham pour un nouvel épisode de AED.
À très vite.
Merci pour votre présentation. Maintenant, nous allons accueillir Lana, Amira, Chanel et Ilma.
Alors bonjour, je me présente, je suis Amira. Aujourd'hui, on va parler du thème de l'itinérance et de l'exil, et plus particulièrement de la manière dont certains peuples vivent le déplacement, non pas comme un choix, mais comme une nécessité. Pour cela, on s'intéresse aux Gitans, donc un peuple dont le monde de vie, l'histoire et la culture sont souvent mal comprises. Entre tradition, mobilité et regard des autres, leur quotidien montre comment l'itinérance peut être à la fois une identité et une contrainte. Pour les Gitans, l'itinérance fait partie de leur identité. On imagine souvent qu'ils choisissent de voyager par goût, de liberté, par tradition ou par mode de vie. Et c'est vrai que le déplacement a toujours eu une place très importante dans leur culture. C'est une manière de rester proche de leur famille et de garder leur habitude et leur manière d'être ensemble. Mais cette mobilité n'est pas seulement un choix. Pendant des siècles, les Gitans ont dû se déplacer par obligation. Donc pour fuir les persécutions, pour éviter les expulsions ou simplement pour trouver du travail. Beaucoup de métiers qu'ils pratiquaient autrefois, comme la musique, la ferronnerie, le commerce ambulant ou autre, les poussaient naturellement à changer de région. Aujourd'hui encore, cet aspect obligé existe toujours. Certaines villes refusent de les accueillir, les terrains aménagés sont trop rares et les expulsions restent fréquentes. Alors le voyage devient parfois une réponse à un manque de place dans la société. Au final, leur itinérance est un mélange des deux. Un mode de vie auquel ils tiennent, mais aussi une nécessité créée par l'histoire, les lois et le regard des autres.
Quand on parle des Gitans, on imagine souvent un peuple européen. Pourtant, leur histoire commence bien plus loin. Avant tout, il faut savoir que les Gitans sont un groupe ethnique tzigane. Ils étaient à l'origine des nomades de la région de Pendjab, au nord de l'Inde. L'appellation Gitan vient de l'espagnol gitano, ou des égypto, parce que les Européens pensaient qu'ils venaient d'Égypte. C'est là que leurs ancêtres vivaient, il y a près d'un millénaire. Leur langue, le romani, en garde encore les traces, des mots et une structure qui rappellent les anciennes langues indo-aériennes. À partir du Xe siècle, ces populations quittent progressivement l'Inde. Elles traversent le Perse, passe par le Moyen-Orient qui atteignent l'Empire byzantin. Sur leur route, elles deviennent forgerons, musiciens, dresseurs d'animaux, des métiers qui les mènent constamment de ville en ville. Tous viennent du même exode indien, mais chacun se façonne sur une terre différente. Les Roms s'organisaient dans les Balkans et l'Europe de l'Est. Les Sinti ou Manouches trouvent leur identité en Europe centrale. Les Calais s'enracinent dans la péninsule ibérique, tandis qu'au Moyen-Orient, les Doms se développent en Turquie ou en Syrie et les Loms dans les Caucases de l'Arménie. Une même région, mais des branches multiples nées de chemins différents. L'histoire européenne des Gitans est marquée par de grands contrastes. Ils sont parfois accueillis, souvent persécutés. Dès le XVIe siècle, plusieurs États imposent des lois répressives contre leur mobilité. Dans les principautés romaines, ils sont réduits en esclavage pendant des siècles. Et au XXe siècle, ils subissent l'un des dramas les plus sombres de l'histoire, qui fait des centaines de milliers de victimes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, malgré ces épreuves, leur culture a laissé une empreinte immense. Le flamenco, les musiques tziganes, le jazz manouche, leur danse, leur conte, leur sens du rythme et de la scène, tout cela témoigne d'une force créative exceptionnelle.
On va maintenant aborder le thème des préjugés versus la réalité, un regard qui pèse. Les Gitans font face depuis longtemps à des préjugés puissants. Ils bougent, donc ils dérangent, ils sont différents, ils ne respectent pas les règles. Ces jugements rapides sont basés sur des clichés et influencent fortement le regard que la société porte sur eux, bien avant de les connaître réellement. On les observe, on les surveille, on les juge, et ce regard pèse sur leur quotidien. En réalité, leur itinérance n'est pas toujours un choix. C'est souvent la seule manière de survivre, de travailler, de protéger leur famille et leur culture face aux expulsions et aux discriminations. Cette mobilité que beaucoup voient comme un problème est en fait un outil de survie et une manière de préserver leur identité. Le regard négatif des autres crée encore aujourd'hui de la méfiance et de l'exclusion. Il rend plus difficile l'accès à un logement stable, à un emploi ou même à des relations normales avec le reste de la société. Les Gitans sont souvent perçus comme un problème avant d'être vus comme des personnes à part entière, avec leur histoire, leurs traditions et leur culture. Comprendre leur itinérance et dépasser les clichés est donc essentiel. Le vrai problème n'est pas leur façon de vivre, mais le jugement que l'on porte sur eux. Un regard qui continue de peser lourdement sur leur quotidien et sur leur place dans la société.
Leur présence traverse la musique, la littérature, le cinéma, les arts, au point de devenir un symbole à part entière de la vie nomade et de la liberté artistique. En musique, leur influence est immense. Le jazz manouche porte la marque indélébile de Django Reinhardt, l'un des plus grands guitaristes du XXe siècle, manouche d'origine qui a donné au monde un style unique, rapide, virtuose, chaleureux. En Espagne, ce sont les Gitans andalous qui ont façonné le flamenco moderne, au chant profond de Camarón de la Isla, aux guitares de Paco de Lucia. Leur héritage résonne dans les tablas hauts et les rues de Séville. Dans les Balkans, les fanfares roms inspirent encore les artistes comme Goran Begovic, célèbre pour ses musiques de films vibrantes d'énergie. Issu d'une famille gitane catalane, Kenjirek est élevé au sein des gens du voyage. Il a mêlé son style, la pop moderne, la rumba et la sonorité héritée de sa communauté. Il est devenu en quelques années l'un des artistes les plus populaires en France. Ses chansons comme Color Gitano, Andalouse et Les Yeux de la Mama célèbrent ses origines, la famille, les rassemblements et la fierté d'une culture souvent mal comprise. Kenji a permis à une génération entière de découvrir un visage moderne, joyeux et accessible à l'héritage gitan. Au cinéma, l'un des réalisateurs qui a le mieux raconté ses peuples est Tony Gatliff, lui-même d'origine manouche. Ses films La Chodrome, Gajo Dilo, Les Princes, Corcoro traversent l'Europe et montrent des vies réelles, loin des clichés. La musique, l'exclusion, la solidarité, la lutte pour préserver une culture. Ce sont des œuvres de référence pour comprendre l'âme d'un peuple souvent mal compris. Dans la littérature, plusieurs auteurs ont donné une voix intérieure aux communautés roms. Matteo Maximoff, écrivain manouche, fut le premier auteur tzigane publié en France. Il raconte la route du destin, les ursi-stories, la spiritualité, les traditions, mais aussi les difficultés d'un peuple en mouvement. Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, a contribué à l'image romantique parfois idéalisée de la femme gitane avec le personnage d'Esmeralda. Une vision marquante, mais éloignée de la réalité. L'art n'est pas en reste. Picasso a peint plusieurs scènes inspirées des Gitans et de leur rassemblement, influencées par ses séjours en Espagne. Aujourd'hui, les Gitans, manouches et roms, continuent d'influencer la culture contemporaine. Des Gypsy Kings à Kenji Girac, leur musique traverse les frontières et met en lumière une identité vibrante, diverse, bien loin des stéréotypes.
Merci pour votre présentation. Maintenant, nous allons accueillir Lio et Lian Céleste.
Bonjour, je m'appelle Elian. Bienvenue sur Radio Cham. Merci de nous écouter aujourd'hui. Alors aujourd'hui, avec mes amis, on va aborder la question « Peut-on parler de liberté quand on est contraint de partir ?» Alors tout d'abord, la migration, c'est dans la plupart des cas une contrainte plutôt qu'un choix personnel. En dehors de l'immigration pour retrouver des proches ou pour un programme d'échange universitaire, les migrants fuient souvent la guerre, les restrictions gouvernementaires, les contraintes familiales ou les raisons climatiques. En effet, ces différentes contraintes incitent des millions de personnes à quitter leur pays sous le poids de la peur, de l'oppression et de l'inconnu. Céleste et Lio, deux étudiantes touchées et investies dans cette cause, ont sélectionné deux témoignages poignants pour illustrer ce thème. Nous allons commencer par donner notre attention à Céleste, qui va tenter de trouver des mots clairs et précis pour ce phénomène si compliqué.
Donc, bonjour à tous, c'est Céleste, merci de m'écouter aujourd'hui. Je vais vous parler d'un témoignage très poignant selon moi à ce sujet, qui a été partagé via l'association SOS Méditerranée. Je vais vous parler de l'histoire très touchante qu'a vécu un homme nommé Samir et une femme enceinte nommée Sonia, un couple originaire d'Érythrée qui ont vécu un amour fort mais interdit à cause de leurs deux religions différentes, donc un homme musulman et une femme chrétienne, qui ont été mal vus par leur famille. Donc pour pouvoir s'évader en Europe, pour fuir l'interdit, pouvoir vivre leur amour mixte et surtout donner un meilleur avenir à leur enfant. Donc comme vous devez le savoir, la question du budget a été un sujet qui a été très compliqué pour eux dans ce voyage. Plus de 1000 dollars pour aller de l'Érythrée au Soudan. Ensuite, Sonia a dû accoucher douloureusement au Soudan, mais parce qu'elle n'était pas musulmane, elle a dû payer l'hôpital 6600 dollars. Pour finir, ils ont dû payer 5000 dollars chacun pour pouvoir aller en Europe. Donc c'est un voyage qui a été traumatisant pour eux, car pendant une grande partie du voyage, ils n'avaient ni eau, ni de nourriture, une femme qui était enceinte, un accouchement dans des horribles circonstances. Il n'y avait aucune aide venant des familles qui les ont horriblement abandonnées. Donc après ce témoignage horrible qu'a vécu Sonia et Samy, nous allons maintenant nous intéresser au deuxième exemple poignant de mon ami.
Bonjour, je m'appelle Lio et j'aimerais vous parler d'un deuxième exemple, celui de Mohamed, qui se trouve aussi sur le site internet de SOS Méditerranée. Son témoignage m'a touchée, car Mohamed a été forcé de voyager pour fuir la guerre dans son pays, la Syrie. Il explique qu'il a d'abord fui au Liban, où il a fini par être emprisonné par une milice. Il n'avait ni à manger, ni d'eau potable. Il était enfermé avec d'autres personnes qui voulaient fuir pour retrouver la paix comme lui. Beaucoup de maladies se propageaient dans cette prison, et bien sûr, il n'avait aucun moyen de se soigner. Après plusieurs semaines enfermées, Mohamed a fini par payer 2300 dollars pour accéder à la liberté, c'est-à-dire une genre de petite barque direction l'Europe où il y avait 17 places pour au final 35 personnes à bord, dont des enfants. Malheureusement, leur bateau est tombé en panne en plein milieu de la Méditerranée. Mohamed raconte avoir vu la mort devant ses yeux. L'association SOS Méditerranée a réussi à sauver Mohamed et les 34 autres personnes à bord. Contrairement à une majorité de personnes, leur voyage n'a pas été choisi ni rêvé, mais il a été contraint et traumatisant.
Merci à vous les filles pour ces précieux témoignages. C'est avec ces histoires-là qu'on se rend compte de la chance qu'on a de vivre dans un pays en paix et en liberté. On remercie toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui et on se retrouve très bientôt sur Radio Cham.
Pour finir, tout au long de ce voyage, nous avons découvert des chemins très différents, certains choisis, d'autres imposés, et finalement, notre question reste ouverte. Peut-on vraiment parler de liberté quand on doit partir? Peut-être que la liberté se trouve parfois seulement dans l'espoir.
On a pu comprendre que même si le départ est imposé, chaque personne garde en elle la force de continuer, de rêver et de construire quelque chose ailleurs. Le voyage contraint ne supprime pas le courage ni l'espoir. Au contraire, il révèle la résilience et la capacité de chacun à transformer une épreuve en nouvelle opportunité. Et c'est peut-être ça la vraie liberté, avancer malgré tout et faire de chaque départ un nouveau chemin vers soi-même.
Merci pour votre participation. Nous voulons surtout remercier toutes les personnes qui ont participé pour avoir partagé leur expérience et leur histoire avec nous. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.